of the knee.
I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
That loser didn't stand a chance!
You were almost a jibbled sandwich.
Hey, listen!
Heroes never die.
Caught one.
The edge of the universe and back. Endure and survive.
Killing you and giving you good advice aren't...
Nothing is true. Everything is permitted. Yes.
Do a barrel roll!
Oh, girl, did you tie that?
Well, this is a tunic. I'll make them feel at home.
This is my favorite store in the Citadel.
Objection!
This world is mine.
What did I say?
Wait. That's not how it happened.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Une heure et des pixels, une émission réalisée, produite par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Pour commencer, nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2026. Gomeissa et Calypso ne seront hélas pas des nôtres ce soir car elles ont été appelées ailleurs, mais vous entendrez tout de même leur chronique grâce à la magie des magnétos. Quant à Marion, elle a été foudroyée par la grippe à quelques heures de l'enregistrement, nous lui souhaitons donc un bon rétablissement. Je suis tout de même en compagnie de Maxime et Tizona. Comment allez-vous ?
Ça va très bien, meilleurs vœux, effectivement.
Oui, ça va bien, même si 2026 commence un peu brutalement.
Et ce mois-ci, nous recevons Jérémy Kermarek, traducteur de jeux vidéo, mais aussi et surtout responsable du Final Fantasy World et auteur d'ouvrages sur cette même licence. Jérémy, bonsoir.
Salut.
Et tout de suite, pour commencer cette nouvelle année, donc, nous écoutons la chronique de Tizona sur le temps ennemi du jeu, point d'interrogation.
Alors, faisant suite aux irrésistibles Soul Steam et aux petits coups de cœur inopportuns qu'on découvre comme ça à la volée, j'ai eu l'horrible occasion de voir à quel point, diable, il m'en reste des jeux à faire. Alors, qu'est-ce qui m'en empêche ? L'envie ? Non, vraiment pas. Ce qui me manque, bah, c'est le temps. Quand on a des emplois avec de plus en plus d'heures, qu'on finit tard, qu'on fait des week-ends, des nuits pour certains et certaines, qu'on a des handicaps, des situations familiales à gérer, on a soit peu de temps pour jouer, soit peu d'énergie pour s'investir dans des sessions de jeu qui demandent une attention plus approfondie. De mon côté, ayant des troubles de l'attention et un TSA, c'est assez technique. Bref, bah, le souci, évidemment, c'est toujours un peu le capitalisme, mais on a aussi de l'autre côté la réalité d'une population qui joue de plus en plus âgée et qui doit composer avec les problématiques précédentes, sans parler aussi des enjeux économiques liés à la consommation. Alors, à partir de là, on assiste à plusieurs tendances dans les pratiques du jeu. En premier, on a la segmentation du jeu. Donc, c'est rien de très nouveau. Il n'y a pas vraiment d'époque, sauf dans les années MMORPG où on comptait pas trop nos heures. 4 à 5 heures de jeu par jour, ça reste énorme, quelle que soit la période. On va diviser des portions de jeu de ci et de là pendant une semaine, pendant un mois. Le souci principal, c'est que on a des jeux qui sont de plus en plus longs depuis maintenant pas mal d'années. Ça se calme un petit peu, disons que ça se stabilise peut-être, mais ça reste quand même assez compliqué sur la plupart des gros titres. On a eu beaucoup de retours qui avaient émergé en ce sens lors de la sortie, qui date maintenant de 2018, de Red Dead Redemption 2, dont la durée de vie était d'à peu près au minimum 50 heures, un peu plus vers les 60-70 heures. Puis une année suivante, Persona 5 Royal, donc qui était une version augmentée du jeu précédent, faisait passer la durée de jeu d'environ 95 heures à environ 110 heures. On voit maintenant un peu moins de gens qui hurlent dès qu'un jeu fait moins de 40 heures en ligne droite, et je pense pas que ce soit accidentel. On va apprécier l'éventuelle rejouabilité qui a remplacé un peu l'injonction au prolongement d'heures de jeu, mais ça reste un réel souci parce qu'il y a quand même pas mal de titres qui sont encore assez longs, surtout quand des jeux prennent du temps à se construire. Donc l'exemple de Red Dead 2, c'est pas le plus récent, mais on a vraiment un jeu qui est fastidieux, où le sentiment de progression il est très lent. Et d'autre part, d'un point de vue expérientiel, ça veut aussi dire qu'il faut que le jeu soit en capacité de garantir une rétention des informations d'une session à une autre, ce qui n'est pas le cas de jeux très denses. Je pense notamment à Death Stranding 1, qui a pas mal de systèmes complexes, ou encore par exemple Zelda Breath of the Wild. En soi, on commence à avoir un petit basculement de ce côté, hein, sans parler d'extrêmes comme Baldur's Gate 3. On a quand même pas mal de AAA qui tentent de se cantonner vers, on va dire, une moyenne de 30 à 40 heures, là où on cherchait des sommets des années plus tôt. Alors, j'ai parlé de Persona 5, mais évidemment, le RPG, c'est un genre qui souffre beaucoup de durée de vie extensible, contenu annexe, grind d'expérience, scénario fleuve. Cependant, ça fait des années qu'il y a des jeux qui proposent des aménagements dans ce genre. Alors, Square Enix n'est pas forcément le plus réactif ni cohérent sur des actualités liées aux pratiques du jeu, mais c'est intéressant de voir de très vite, c'est un éditeur qui a pris conscience lui-même de la nécessité de propositions telles que des modes accélérés dans ses jeux, donc notamment dans dans la sorte, enfin, re-sortie de Final Fantasy IV sur PSP en 2011, on avait un mode de jeu accéléré pendant les combats. C'était menu, mais c'était déjà ça. Depuis, on a eu d'autres jeux. On a eu notamment Final Fantasy XII, le remaster, qui avait une vitesse x4 dans le jeu, ou encore le portage de Chrono Cross en 2022, qui est un très bon jeu, demeurant, qui permet tout simplement de skipper des combats aléatoires et de se rendre plus ou moins invincible face au boss, ce qui permet malgré tout d'apprécier les combats. De manière assez amusante, j'ai pas eu l'impression de voir du gatekeeping sur ces options en particulier, comme on peut en trouver dans une scène un peu plus performative de jeu, sans les citer, hein, des Soulsborne, etc., quand on aborde le mot mode de difficulté qui fait sursauter tout le monde dans la salle. C'est un peu comme si c'est la longueur de ces jeux et le gain de qualité de vie octroyé par ces options, c'était tellement valorisé que on cherchait pas trop à pinailler à côté. Même sur la partie MMORPG, Final Fantasy XIV, il a survécu à la décimation, disons, socialement logique du genre, notamment avec des aménagements qui s'ajustaient aux évolutions de vie, donc la possibilité de jouer avec des PNJ pendant la progression principale. Donc le fait d'avancer dans l'histoire sans la nécessité de grinder des niveaux, comme ce fut le cas dans la plupart des MMORPG. Bon, par contre, leurs jeux mobiles, ils sont toujours pas terribles à Square Enix. Enfin, on a aussi la valorisation de la segmentation des temps de jeu. On observe que ce temps réduit va être propice à des tâches courtes, certes répétitives, mais potentiellement moins demandantes sur un plan cognitif, qui deviennent plus pratiques à utiliser, par exemple de manière nomade. Alors ça trouve une réponse notamment dans le jeu mobile, qui est en grande expansion. Je pense que j'en avais déjà parlé par le passé, mais dans le rapport du CEL qui est paru en septembre dernier sur la pratique des jeux, on arrivait à 61% de personnes qui jouaient principalement sur le téléphone mobile et non pas la tablette n'était pas incluse, contre 53% l'année passée, donc on avait quand même une belle augmentation. Et on avait par exemple, la console était à 59%, 47% le PC. Donc les jeux mobiles, mais aussi les jeux en ligne, qui ont très souvent ces formats courts, des tâches quotidiennes, soit rapides, soit qui donnent l'impression d'être rapides, c'est tout à fait propice et ça répond tout à fait aux difficultés qu'il peut y avoir face aux contraintes de temps. Alors, pour conclure, est-ce qu'on a besoin de faire des jeux plus courts ? Je pense pas, il en faut pour tout le monde, mais il en faut si bien pour tout le monde qu'il est nécessaire d'avoir la possibilité de personnaliser son expérience au mieux, grâce à des options d'aménagement, dont on a pu éventuellement parler, un design utilisateur bien pensé qui favorise l'intuitivité, la rétention d'informations, l'accessibilité bien sûr. De plus, on parle peu des petits jeux, mais ça représente aussi de belles alternatives lorsqu'on découvre des petites expériences ludiques qui ne dépassent pas les 10 heures et touchent à peu près tous les genres possibles. En effet, on a quand même tendance à un peu moins y chercher le ratio souvent exigé entre temps de jeu et rentabilité d'un achat, qui est par ailleurs un calcul complètement faussé. Et en plus, ça permet toujours d'alimenter notre curiosité, de découvrir des univers, des pattes artistiques, des petites mécaniques bien originales. Bon, par contre, ça règle toujours pas le problème de mes 560 jeux Steam qui m'attendent et ma liste de souhaits de 433 jeux.
Merci Tizona. Jérémy, tu voulais réagir ?
Oui, ben déjà, la chronique m'a semblé très pertinente, hein, surtout quand on est tous à un âge avancé, effectivement, où la vie fait en sorte que c'est un peu compliqué de s'aménager du temps pour faire les jeux. Genre l'année dernière, par exemple, j'ai pas eu beaucoup de temps pour jouer. Il y a aussi, effectivement, le fait que ces jeux longs demandent un investissement, plus qu'un investissement de temps, je dirais, c'est presque un investissement mental, dans le sens où on est dedans et l'expérience peut devenir vraiment incroyable quand on est dans un jeu depuis longtemps et que le jeu est bien sûr est suffisamment bien fait pour ça, qu'on a une expérience riche et profonde. Et l'exemple de Red Dead Redemption 2 était bien justement parce que c'est un jeu, moi j'ai adoré justement de le faire pour cette raison, c'est que assez rude d'entrer dedans, surtout les systèmes de jeu à la Rockstar, franchement ils sont extrêmement datés, mais au bout d'un moment on les a acquis, on est rentré dedans et le jeu devient inouï dans le sens où il est conçu avec un soin presque délirant. Enfin, au bout du moment, on n'a pas besoin d'avoir autant de soin dans le jeu là. Mais ce niveau d'immersion crée une expérience vraiment incroyable qu'on ne peut pas avoir avec un film, par exemple. Là, on en est presque plus à la lecture d'un livre, hein, qui va nous prendre pendant plusieurs jours, plusieurs semaines parfois. Et ça, c'est une expérience que je suis très content de pouvoir vivre avec des jeux vidéo. C'est vraiment ce qui en fait le sel, hein, dans les jeux les plus longs comme ça, c'est cet investissement qu'on met en termes de temps et comme je le disais, c'est un investissement mental, quoi. On est dans ce jeu là, on s'est mis dans l'état d'esprit de ce jeu, on suit ses personnages, on suit un univers, bah, c'est ça qui, qui rend d'autant plus abrupte le fait que tu peux pas en sortir, tu peux pas revenir dedans. Et moi, ce que je trouve avec Red Dead Redemption 2, par exemple, c'est que j'avais pu le... Enfin, j'avais fait d'une traite, j'avais fini, j'ai pas joué à autre chose en même temps. Mais quand après, des mois plus tard, je me disais quand même, j'aimerais bien revenir un peu dedans, me remettre un peu dans l'ambiance, je le lance, et là je me dis non, ça marche pas en fait, je suis plus dedans, c'est fini, le moment Red Dead Redemption 2 est passé pour moi, et c'est ça qui me chagrine vraiment beaucoup quand ça arrive dans un jeu, je me dis mince, je suis plus tout à fait sûr de réussir à l'aimer comme je l'avais apprécié la première fois, à moins de recommencer depuis le début, et bah, je suis désolé, mais ce jeu-là, il y a d'autres jeux qui attendent derrière, hein, donc ça va pas être possible. Donc c'est un peu triste de ma part, je trouve.
Je trouve que ça rejoint un petit peu, enfin moi je suis tout à fait d'accord, hein. J'irais même un petit peu avant en disant, bon, il n'y a pas forcément des fois une injonction à jouer à tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qu'on nous dit de jouer, etc. On peut faire des choix et c'est un avantage bah, de consommatorisme en général, mais au-delà de ça, je trouve que ça se recoupe un petit peu avec, avec nos manières de consommer les jeux de manière générale. Je pense que c'est ok de regarder un jeu parce que c'est pendant très longtemps il y a eu des mais bon, j'ai eu une position qui était différente, on apprend de ses erreurs, mais de se dire oui bah non, si tu regardes quelqu'un qui le stream, si tu regardes quelqu'un qui, enfin une vidéo, bah tu peux pas dire que t'as joué au jeu, tu peux pas dire que t'apprécies. Alors je pense que les gens ne sont pas bêtes, évidemment ils savent qu'ils n'ont pas joué au jeu, mais pour autant si un jeu propose une expérience narrative etc. que les personnes n'ont pas la possibilité ni l'envie, donc possibilité ça peut être la possibilité financière, ça peut être la possibilité bah, parce que c'est plus facile de regarder une vidéo que de se poser et de jouer à un jeu, et auquel cas ça répond aussi un petit peu à ces problématiques on va dire temporelles et sociales, ben c'est possible de quand même apprécier ces jeux. Alors évidemment on attend des personnes qu'elles ne mettent pas d'avis sur le gameplay, le game feel de manière générale, parce que bah, évidemment les personnes là n'auront pas forcément la représentation très concrète de ce que c'est. Mais en tout cas, j'espère qu'aujourd'hui, la vision des personnes qui profitent du jeu de cette manière-là a changé et n'est toujours pas dégradée. Enfin, n'est pas dégradée, parce que je pense qu'il n'y a pas de mal à consommer comme ça. Et qu'à l'inverse, je pense que c'est mieux d'avoir des personnes qui sont curieuses et qui regardent des choses, quitte à bah, ne pas les faire soi-même, que bah, ne jamais le faire. Ce qui n'est pas un mal en soi. Mais je pense que ça reste un gain.
Par rapport à jouer simplement certains chapitres et pas d'autres et ainsi de suite, c'était Jean qui, lorsqu'on l'a interviewé sur les recherches qu'il faisait par rapport au tableau et ainsi de suite dans les jeux vidéo et qu'il avait besoin de faire des captures, expliquait que maintenant ce qu'il utilise énormément c'est les sauvegardes mises à disposition par d'autres joueurs et joueuses, et que ça lui facilite énormément la tâche parce que ça lui permet de ne pas avoir à jouer à tout le jeu. Donc il y a toujours finalement cette option là. Alors certes, ça nécessite comment dire, ça nécessite d'aller télécharger, de trouver, d'aller télécharger et ainsi de suite, mais finalement ces options existent. Et puis j'ai l'impression d'avoir quand même si je dis pas de bêtises, d'avoir eu au moins un jeu qui permettait de passer quelques chapitres. Mais c'est vrai que c'est une option qui...
Moi il y a un truc que j'ai vu récemment, c'était notamment avec The Witcher 3, c'était avec les DLC, tu pouvais directement commencer le DLC sans avoir à refaire tout le jeu de base, tu vois. Et ça c'était un truc qui était pas forcément très récurrent à l'époque, quand t'avais des jeux qui sortaient des extensions, tu devais l'extension elle était intégrée dans le jeu de base et tu devais progresser dans l'histoire principale pour accéder à l'extension, tu vois. Et là dans The Witcher 3 et dans Cyberpunk tu peux directement commencer, tu peux skip toute l'histoire principale ou skip des passages et accéder directement à l'extension, quoi. Mais c'est des cas très particuliers.
Non, mais c'est vrai que, enfin moi typiquement du coup pour parler un peu de mon expérience personnelle, tu disais Jérémy que c'est pas grave d'abandonner un jeu, de sauter des chapitres comme en lecture et ainsi de suite. Et c'est vrai que moi il y a un moment où je sais plus qui disait si un livre vous tombe des mains, bah laissez-le tomber. Et ça a été un déclic pour moi, que ce soit pour tout, peut-être pas pour les films, parce qu'à la limite si j'ai quand même envie d'aller au bout d'un film, je fais autre chose à côté. Donc il y a quand même cette possibilité-là d'être complètement passif ou passive face à... Enfin, non, c'est pas plutôt passif ou passive, mais c'est-à-dire cette possibilité de faire autre chose que du coup, maintenant, par rapport aux jeux vidéo, offre en effet les streams et les... comment s'appelle ce format de... ce format de vidéo qui ne montre que les passages de gameplay pour suivre l'histoire. Les passages de gameplay qui font le pont d'une cinématique à l'autre. Non, c'est pas un playthrough, c'est bon, bref, peut-être que le nom reviendra, mais c'est, je sais que typiquement quand j'ai fait mon mémoire sur la narration dans le jeu vidéo, j'utilisais énormément ces vidéos-là justement pour voir plein de jeux dont la narration me semblait intéressante et dont l'usage des cinématiques me semblait.
Ah, c'était juste pour voir les cinématiques, c'est ça.
C'est les cinématiques, mais t'as quand même les phases de jeu. T'as quand même les phases de jeu entre chaque cinématique.
Oui, je connais les formats films, mais
c'est ça exactement.
Ouais. Ok.
Exactement. Et voilà. Et moi, c'est vrai que là, le nombre de jeux que je peux commencer et que finalement j'abandonne parce que ça, soit j'ai dû les arrêter un moment et finalement je trouve que j'ai pas de plaisir à les reprendre ou quoi que ce soit et que je me dis finalement si ce jeu me hante pas entre guillemets, si le fait de pas aller très haut jusqu'au bout me hante pas, c'est que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Mais je pense que c'est vraiment un déclic.
Ça dépend des jeux aussi. Parce que...
Oui, mais c'est ce que je te dis, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui te hantent et où tu as envie de continuer la fin et que tu t'en veux, tu es frustré de pas pouvoir aller jusqu'au bout parce que par manque de temps ou quoi que ce soit, mais je pense que c'est vraiment un déclic d'arriver à abandonner ce truc du quand je commence quelque chose, quand je commence une activité de plaisir et culturel, je peux ne pas aller jusqu'au bout, quelle qu'elle soit, et c'est vraiment... Ouais. On est vraiment à l'opposé du FOMO ou de tout ça. Ingrid.
Oui, justement par rapport à ça, alors c'était, alors j'ai lu, alors je sais plus si j'ai lu ou si j'ai vu. Hein, je suis désolée, si j'arrive à retrouver la source, je la partagerai. Mais c'était il y a peut-être 2 ans. Il y avait quelqu'un qui avait parlé du Game Pass. Alors c'était un des rares avantages du Game Pass, hein, qui est malheureusement extrêmement nocif. C'était de dire, c'est pas grave en fait de picorer finalement, de lancer un jeu, de pas forcément le finir, et c'est vrai que c'était une perspective qui était octroyée par le Game Pass, c'est d'avoir accès à tout un tas de jeux qu'on n'aurait pas forcément acheté, surtout quand ils sont assez chers, et de les lancer. Enfin moi, ça, à l'époque où je m'étais abonné, c'était ce que je faisais, je jouais quelques heures, c'est des jeux auxquels je sais que je ne rejouerai pas, mais j'ai eu pas une mauvaise expérience, à l'inverse, j'ai eu des bonnes expériences, j'ai pu découvrir le gameplay. Alors malheureusement, c'est dommage qu'il faille reposer sur ce genre de système, mais c'est quelque chose qui de plus en plus apparaît dans les médiathèques de certaines villes. Alors malheureusement, ça dépend des médiathèques, mais c'est le fait d'emprunter des jeux. Et c'est justement, je trouve que ça pallie bien au fait de se dire, c'est très bien de picorer, c'est pas grave de pas finir quelque chose, et c'est important de picorer parce que c'est toujours bien d'être curieux. Et voilà, ce serait bien qu'il y ait autre chose qui le propose, mais malheureusement je vois pas trop d'autres opportunités que le Game Pass de manière aussi universelle et facile d'accès.
Merci Tizona pour cette chronique, merci à toutes et tous pour vos réactions, et on va laisser la parole à Gomeïssa via un magnéto, et on se retrouve juste après.
Je me rappelle, la première fois que j'ai joué à Terranil, c'était à la démo. Je savais pas trop à quoi m'attendre, j'avançais un peu à l'aveugle en essayant de faire pousser de l'herbe au milieu d'un grand désert, en voyant le truc commencer peu à peu à ressembler à un début de paysage. Et puis à un moment, il y a un détail qui attrape mon regard, au bord d'un ruisseau. Est-ce que je viens de voir une grenouille ? Dans mon souvenir, c'était une émotion forte, comme si je voyais la première grenouille de ma vie. Je m'y attendais pas, j'ai eu le sentiment d'avoir vraiment fait quelque chose de bien, quelque chose qui réchauffe. Au départ, Terranil, c'est un projet de game jam sur le thème « Start with nothing », commencer sans rien. L'idée, au début d'une partie, il n'y a qu'une grande région désolée, polluée, déserte et stérile. On commence donc sans rien. L'objectif, la remettre en bon état écologique. Et pour y arriver, il faut construire des structures qui permettent de valider 3 phases successives. D'abord, dépolluer le sol, puis végétaliser assez de surface. Ensuite, il faut restaurer plusieurs habitats correspondant au climat de la région, par exemple des prairies, des forêts, des marais, pour un climat tempéré. Enfin, vient la 3e phase où il faut quitter la région sans rien y laisser d'humain. En écoutant des conférences de l'équipe créative, j'ai découvert qu'ils avaient réfléchi le game design des différentes régions en cherchant des spécificités et des phénomènes écologiques singuliers en se basant sur la classification climatique de Köppen, qui différencie 6 climats selon les précipitations et la température, à savoir les climats tempérés, continental, tropical, polaire et sec. Ce dernier n'était pas dans le jeu à la sortie, mais il est arrivé dans la toute dernière mise à jour. C'est la dernière étape du jeu qui lui a valu sa phase d'accroche de River City Builder, un jeu de construction de ville à l'envers, à la fois parce qu'on y déconstruit des bâtiments, mais je pense que c'est surtout parce qu'on fait le contraire de l'urbanisation. Dans Terranil, on fait de la restauration écologique. Dans la vraie vie, la restauration écologique, c'est un peu la même chose. On part de milieux dégradés, naturels, urbains, industriels, avec un objectif de retrouver un bon état écologique. On peut décider de mettre en place de la renaturation, ce qui veut dire laisser des espèces vivantes spontanément recoloniser des milieux perturbés, et on peut aussi faciliter ou accélérer ce phénomène via une gestion humaine. Terranil, c'est un bon exemple de rhétorique procédurale. La rhétorique procédurale, c'est le chercheur en game design Jan Bogost qui disait en 2007 qu'on peut utiliser les processus et systèmes d'un jeu pour formuler des arguments ou exprimer des idées. Dans notre fin de partie, le fait de quitter la région sans laisser aucune trace humaine, en retirant et en recyclant toute structure, déjà ça dit que la restauration écologique, on ne la fait pas pour notre bénéfice, mais pour les animaux libres. Mais aussi, plus subtilement, pendant votre seconde partie, vous allez faire attention aux endroits où vous construisez, pas trop loin, pas trop haut, pour ne pas se mettre en difficulté au moment de les retirer. Cette prévoyance, cette anticipation de la fin de vie du matériel, après son usage, c'est une sorte de posture d'ingénierie éco-responsable. On pense le retrait et le démantèlement avant même le début de la construction. Toujours en fin de partie, quand le vaisseau quitte la région et laisse la vie suivre son cours sans plus d'intervention, eh bien on peut rapprocher ça du mouvement Rewilding, qui fait la même chose dans le vrai monde. En France, c'est l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages, qui a acheté des terrains dans les Alpes pour les laisser en évolution libre, et toute activité humaine y est interdite, à part la marche sans sortir des sentiers. Il y a une autre idée importante que le jeu illustre hyper bien, c'est l'idée que la protection des milieux naturels est primordiale. C'est l'esprit de la directive européenne Habitat qui dit « Pour protéger les espèces, il faut d'abord protéger les espaces ». J'explique. Les animaux ne reviennent dans votre région que si les milieux nécessaires sont présents. Ils ont plusieurs jauges de satisfaction, dont une pour l'habitat et une pour la niche. L'habitat, c'est un peu l'adresse d'un organisme, et la niche, ça va être sa profession. Par exemple, je suis un cloporte, mon adresse, c'est la forêt, mon taf, c'est manger des feuilles mortes. Et si on est grand comme un chevreuil, bah la forêt qui peut être un peu trop petite, alors on doit aller d'une forêt à l'autre. Mais pour se déplacer en sécurité, c'est comme dans un cover shooter, il vous faut des cachettes. Les animaux ont besoin, eux, de corridors écologiques, comme des haies ou des fossés, pour se déplacer sans danger. Et c'est là que le jeu permet de construire des écoducs, des sortes de ponts écologiques entre deux habitats, ce qui permet de les relier s'ils sont semblables, ou de créer une lisière entre les deux s'ils sont différents. Les écoducs, vous en voyez parfois. Vous savez, ces ponts bizarres qui traversent les autoroutes avec des buissons et des arbres dessus. Bah, c'est des écoducs. Maintenant que vous savez que pour protéger les animaux, il faut protéger les milieux dont ils dépendent, vous savez que les zoos qui justifient leur existence par, entre guillemets, la conservation des espèces, bah, ils sont pas plus efficaces qu'un canot de sauvetage pour sauver tout un navire dans une tempête. Pour finir, je sais bien que le jeu vidéo, c'est pas l'activité la moins coûteuse sur le plan de la responsabilité environnementale, mais si Terranil parvient à vous procurer ce sentiment d'accomplissement de soi et de gratitude que j'ai ressenti, une joie sincère et le sentiment d'avoir bien agi en restaurant des écosystèmes, alors je crois que ça vaut le coup parce que c'est le signe d'un jeu vidéo qui peut faire bouger les esprits dans le bon sens.
Merci Gomisa de nous avoir parlé de Terranil, un jeu que je recommande très chaudement. Vous pouvez d'ailleurs le trouver sur Netflix et il est parfaitement jouable en tactile, sur tablette ou avec un smartphone assez grand. Et il est temps maintenant de passer à la suite, et cette suite, c'est notre première pause musicale, et nous écoutons The Vestige, composé par Masashi Hamauzu pour l'OST de Final Fantasy XIII. Vous écoutez Une Heure des Pixels sur Radio Campus Paris et tout de suite, l'entretien avec Jérémy.
Salut Jérémy, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, comme t'as présenté Lazare en début d'émission, tu es traducteur, mais les gens te connaissent peut-être un peu plus pour ton activité d'auteur et notamment aussi pour ton activité sur le site Final Fantasy World. Dans un premier temps, moi je voulais te demander comment est-ce que tu te présenterais toi personnellement, voilà, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement, notamment sur ton parcours, est-ce que tu imaginais faire ce que tu fais aujourd'hui, quel a été ton parcours professionnel ou alors au moins tes études, voilà, qu'est-ce que tu as, comment t'en es arrivé là aujourd'hui?
Bah, c'est une vaste question, déjà merci. Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait très plaisir d'être avec vous maintenant. Alors, vaste question, pourquoi est-ce que j'en suis arrivé là professionnellement parlant? C'est que je suis traducteur donc de jeux vidéo, ce qui veut dire que spécifiquement le jeu vidéo est un centre d'intérêt très fort depuis très longtemps. Moi, la première console qu'il y a eu à la maison, c'était la NES. Alors, j'étais très petit à l'époque, je m'en souviens pas très bien. Par contre, je me souviens très bien de la Super NES qui est arrivée juste après. Puis il y a eu la PlayStation, et en 98, j'ai découvert Final Fantasy VII. Donc évidemment, là, comme beaucoup de monde, la vie a un peu changé. Peut-être pas quand même exagéré, mais c'est vrai que c'est un jeu qui a quand même pas mal bouleversé ma vision du jeu vidéo. Donc ça m'a fait de moi un fan de Final Fantasy, un grand joueur de jeux vidéo. Et quand j'ai découvert Internet dans les années 2000, je l'ai eu en 2000 à la maison, forcément ça a élargi les horizons, donc j'ai commencé à faire la première année tout de suite un site sur la musique de jeux vidéo, enfin la musique de Final Fantasy qui m'avait agrippé dès le départ à FF7. Puis j'ai, dès 2001, embarqué dans Final Fantasy World aussi, j'ai commencé à écrire sur le site, il y avait pas mal de monde qui écrivait à l'époque. Et parallèlement, Internet m'a permis, je pense comme pas mal de monde de ma génération, d'acquérir un niveau en anglais quand même assez confortable, plus que ce que j'avais en classe, je dirais. En tout cas, les cours d'anglais, je trouve, au collège, lycée, n'ont pas forcément été très utiles dans ma formation.
C'est une expérience que je partage aussi. Hein. C'est vrai que Internet ouais. Et les jeux vidéo ont peut-être un peu plus aidé que les cours d'anglais.
Exactement. Donc moi, ça m'a quand même donné un sacré boost en termes de maîtrise de l'anglais, ce qui fait que j'ai eu mon bac en 2004. Et quand il s'agissait de savoir ce qui allait être mon parcours après, j'avais eu 16 sur 20 en anglais, c'était ma meilleure note. Moi, je me suis naturellement inscrit à la fac en LLCE pour le coup, pas en LEA comme la plupart des gens le font pour la traduction en jeu vidéo d'ailleurs. Donc moi, c'était langue, littérature et civilisation étrangère en anglais, et donc ça m'a orienté davantage évidemment vers les métiers liés à la langue anglaise. Et il se trouve qu'en parallèle, j'ai développé quand même un intérêt assez prononcé pour la traduction de jeux vidéo en tant que tel, notamment celle des jeux de Square Enix, parce qu'évidemment, c'était les jeux que j'appréciais le plus.
Et t'arrivais déjà à identifier ce qui faisait la particularité de la traduction des jeux vidéo par rapport à la traduction d'autres types de médiums?
Non, pas forcément. Ça, c'est un truc qui est venu après plutôt dans mon contact direct avec la traduction. Alors, je comprenais certains trucs, hein, parce qu'à l'époque, à cette époque-là, Square Enix organisait quelques conférences parfois sur la traduction de jeux vidéo à la Games Developer Conference. Par exemple, ils avaient déjà organisé une conférence consacrée à la localisation chez Square Enix, qui était présenté par Richard Mark Honeywood, qui était un de leurs grands traducteurs de l'époque, qui était vraiment un...
Donc là, tu parles bien de la traduction du japonais vers l'anglais, c'est ça ?
Traduction du japonais vers l'anglais, oui, tout à fait. C'était pas encore tout à fait question du français. Mais ouais, il avait quand même pas mal sensibilisé à ces questions-là, sur le fait que il va aller faire attention aux variables, par exemple, le fait que les textes pouvaient changer selon que si ça désignait un objet, ça, il pouvait avoir le plus singulier et le pluriel. Donc ça, c'est un truc que j'avais déjà acquis, plus ou moins. Et d'ailleurs, anecdote assez amusante, tu parles de l'anglais, mais vers le français aussi, bien sûr, j'avais un intérêt particulier avec les traductions de Final Fantasy, qui ont commencé en français dans FF7, qui n'étaient pas comme super qualité. Je pense qu'on s'en souvient tous si on avait joué à l'époque, et qui se sont améliorés au fil du temps, parce que Square a recruté des traducteurs sur place qui traduisaient du japonais vers le français, et il se trouve, à l'époque, sur Final Fantasy World, on avait eu une proposition d'un français vivant au Japon, qui nous avait dit j'ai commencé à jouer à Final Fantasy 11, donc on était en 2002 là, et j'aimerais bien faire un journal sur le site pour raconter mes expériences sur le jeu, voilà, ça me fait plaisir. Donc on l'a laissé faire, il nous envoyait des chroniques en français, avec des captures d'écran, et plot twist, il se trouve que le type en question, il avait quand même mis son vrai nom dans le mail qu'il envoyait, il se trouve que c'était Laurent Sautière, qui est le traducteur français de Final Fantasy depuis le 10, c'est le premier épisode sur lequel il avait travaillé.
Et il était encore déjà aujourd'hui. Traducteur, quand il a écrit pour vous?
Oui, il était déjà traducteur, ah, il avait traduit okay. FF10 en fait, il était recruté okay. chez Square depuis 2000 ou 2001, je sais plus exactement, mais voilà, donc il l'était. Donc moi j'ai identifié son nom parce que je l'avais vu dans FF10 justement.
Vous aviez carrément un insider.
Exactement, mais en fait le truc c'est qu'il s'attendait pas à ce qu'on le reconnaisse, c'est ça qui est assez rigolo.
Il avait très confiance quand même.
Il avait un peu confiance, ouais. Donc bon, il se trouve que voilà, on était un peu au contact après, j'ai discuté avec lui sur ICQ à l'époque, hein. C'était vraiment il y a très longtemps. Et c'était vachement intéressant de parler avec le traducteur de Final Fantasy. Je me sentais pas un peu, un petit peu honoré quand même. Il m'avait raconté des anecdotes sur la traduction de Kingdom Hearts à l'époque, avant même qu'on apprenne que le jeu allait être.
Ça doit être une expérience intéressante de traduire Kingdom Hearts, vu à quel point les dialogues sont très mielleux et un peu cheesy.
Certes, mais après le traducteur ne choisit pas le projet sur lequel il travaille.
Non, bien sûr, mais ça va être une expérience intéressante.
Voilà. Et donc il se trouve que finalement, par le biais d'amis, au milieu des années 2000, j'étais à la fac déjà à l'époque en train de travailler en anglais. J'ai eu une opportunité de faire de la pige, de traduire en indépendant pour une boîte de jeux vidéo, de traduction de jeux vidéo qui s'appelait Evocati. Qui s'appelle toujours Evocati parce que il se trouve qu'en fait c'est la boîte où je me suis fait recruter en tant que traducteur et chef de projet en 2009,
okay.
Où j'ai été pendant 15 ans jusqu'à l'année dernière où à cause de certains problèmes, dont on va peut-être parler. J'ai dû quitter l'entreprise et pour aujourd'hui travailler en indépendant. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. C'était un peu peut-être un peu dans tous les sens.
Non, mais c'est le but de cette discussion aussi, c'est qu'on ait une conversation tout à fait normale. Hein. Moi, j'ai des questions, mais après le fil de la discussion, voilà, il est comme il est. Hein. Justement, puisque tu en parles, c'est aussi une des raisons pour laquelle on a voulu t'inviter, c'est parce que tu as récemment pris la parole dans JV le Mag. Je crois dans un article de Pierre Mauguin justement sur la question du sujet qu'on ne peut pas échapper, auquel on ne peut pas échapper malheureusement, c'est l'intelligence artificielle générative qui est de plus en plus utilisée et qui était déjà utilisée dans la traduction, notamment la traduction automatique. Et donc dans cet article, tu parles du danger que ça représente pour ton métier et t'en as clairement été, t'as directement subi les conséquences de la recrudescence de l'utilisation de l'IA. Et sans pour autant paraphraser tout ce que tu as pu dire dans l'article de JV, parce que moi je pense par exemple là, dans l'article je crois tu dis que tu ne recommandes plus aux personnes aujourd'hui de s'orienter dans cette voie professionnelle à cause de l'actualité du métier quoi. Et donc moi ma question c'est est-ce que tu penses vraiment que c'est fini, il y a pas d'espoir pour les jeunes qui voudraient s'orienter dans ce milieu-là, dans la traduction de jeux vidéo?
Ouais, alors effectivement, ça paraît très décourageant comme ça, mais une part de moi me dit non, il faut pas dire ça, mais une autre part de moi me dit il faut quand même le dire parce que
faut pas donner des illusions aux
gens qui ça intéresse.
Non,
régulièrement, on a des jeunes qui nous contactent, qui nous contactaient dans ma boîte et les yeux pleins d'étoiles, comme moi j'avais des yeux pleins d'étoiles en commençant à traduire du jeu vidéo, c'est incroyable en fait de se lancer là-dedans. Moi je considérais que je suis traducteur de jeux vidéo, encore aujourd'hui je me dis quand même j'ai une chance vraiment folle quoi, ça a été surtout au tout début quand je me suis lancé fin des années 2000, il n'était pas du tout question de traduction automatique, c'était un métier totalement honorable, même si ça n'a toujours été la cinquième roue du carrosse, mais au moins on n'avait pas ce risque-là qui nous posait au-dessus de la tête, et c'est vrai que c'était quand même beaucoup plus facile de rentrer dans ce métier-là. La preuve, moi j'ai pu rentrer assez facilement, j'ai passé un test évidemment pour valider mes compétences avec cette entreprise-là, j'avais évidemment validé mon diplôme, j'avais vécu en Angleterre pendant un an, enfin j'avais tout était là pour dire que voilà, le niveau d'anglais était suffisant et j'avais la passion du jeu vidéo, voilà. Sauf que aujourd'hui, les conditions de travail dans la traduction de jeux vidéo se sont pas du tout améliorées au fil du temps, et je dirais même qu'avec l'irruption de l'IA, effectivement, elles se sont dégradées de manière évidente, notamment en ce qui concerne c'est un truc un peu terre à terre, mais l'argent, quoi, tout simplement, la paye n'est plus du tout au rendez-vous à cause de l'irruption de l'IA et de ce système dont je parlais également dans l'article et qui est un élément important à comprendre pour savoir où on en est à la traduction de jeux vidéo, c'est la post-édition, qui peut parfois être désignée par l'acronyme anglais MTPE, donc MTPE c'est Machine Translation Post-Edition. Donc en fait, le principe de la post-édition, c'est la traduction, au lieu d'être faite par un humain, puis relue par un humain, puis testée par le service d'assurance qualité, va être traduite d'abord par la machine, par un service Google Trad, DeepL, ou maintenant les IA avec LLM, puis va être relu et corrigé par un être humain. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est arrivé dans, c'est ce qui nous a percuté dans la traduction de jeux vidéo depuis environ 2-3 ans et l'arrivée de ChatGPT. Je dis pas que ça n'existait pas avant, hein, la post-édition, ça existe avant, c'était déjà proposé avant par des services de traduction, mais ça avait un petit côté un peu sale en fait, c'était pas bien de faire ça parce que ben, c'est
quand même un peu... Ils ont attendu que le verrou moral saute pour se jeter.
Exactement, exactement, et le verrou moral c'était celui de l'irruption des IA avec LLM, où de manière vraiment, je dirais, honteuse en fait, nous est tombé sur la gueule un outil qui n'a pas été contextualisé du tout et qui a été enrobé d'un côté « Oh mon Dieu, c'est miraculeux, c'est une intelligence artificielle qui discute avec nous tout seul, c'est tellement naturel, on a l'impression de parler avec une vraie personne. » Et il n'y a pas eu de recul critique qu'on commence à voir de plus en plus quand même, heureusement, parce que là, quand même, il y a des choses extrêmement grossières qui se font avec l'IA, mais la manière dont c'est arrivé, ça nous est arrivé dessus... voilà, il n'y a pas eu ce recul du tout, et moi j'étais presque surpris par la vitesse à laquelle le domaine de la traduction a été percuté par ça, et qu'on a vu des clients. L'an dernier, ma boîte, Evocati, a perdu ses deux principaux clients, coup sur coup. Au début de l'année, on a perdu un, à la fin de l'année, on a perdu un autre, pour ces raisons. Voilà, tout d'un coup, le monde de la traduction de jeux vidéo s'assèche. Parce que ils ne proposent plus du tout de traduction en direct, ils proposent simplement, vous allez nous relire de la merde chiée par l'IA. Et je suis désolé d'être un peu grossier, mais c'est un peu le sentiment que ça m'inspire. Ouais. Non, mais après, c'est pas tout d'être contre l'IA par posture, tu vois. Il y a des raisons de le penser.
Oui, non, mais c'est vrai, c'est ce que j'allais dire. On pouvait penser que certaines personnes étaient alarmistes en disant l'IA va tous nous remplacer. Mais là, ton exemple à toi, c'est quand même la preuve que ça allait assez vite et que c'est ce qui s'est passé, quoi. Donc c'était peut-être pas si alarmiste que ça dans certains cas de figure, quoi. C'était la vérité, quoi.
Non, c'était pas alarmiste comme ça. Et j'ai envie de te dire aussi, ça m'a fait relativiser sur pas mal d'éléments. Et notamment, mais ça, je sais, j'en ai parlé aussi déjà sur Blue Sky, par exemple, c'est le fait que on nous a longtemps jugé sur la qualité des traductions. Pour avoir un nouveau client, on passe d'abord une phase de test, on reçoit des tests avec des trucs à traduire. Parfois, chez certains clients, c'est des tests chronométrés, donc on a un certain temps pour faire une traduction d'un certain nombre de mots, voilà. Puis on reçoit ensuite un compte rendu assez sévère, souvent, il pinaille sur pas mal de petits détails. Et même une fois qu'on a acquis un projet, il peut arriver régulièrement que... il nous envoie des comptes rendus en disant « Tiens, cette année, là-bas, vous avez eu tel nombre d'erreurs, on a dû corriger tel nombre de fautes en assurance qualité. » Bon, on était surveillé sur la qualité de la traduction.
Ça donne un peu l'impression d'être à l'école et d'être jugé sur les fautes d'orthographe. Quoi. C'est...
voilà, mais dans un sens, j'ai envie de dire « Bon, pourquoi pas c'est une relation de client à prestataire, c'est logique qu'il nous surveille d'une certaine manière. » Et avec l'IA, du jour au lendemain, on a commencé à s'entendre dire que oh, il fallait arrêter d'être perfectionniste quand même. Bon, c'est bon là, la qualité est suffisante, c'est good enough, comme on dit en anglais, c'est suffisant. Ouais. Et il y a eu ce basculement brutal de une exigence parfois maladive à un oh, c'est bon, ça c'est pas mal, ça suffit quoi. Et ça m'a fait vraiment relativiser dans le sens où j'arrive pas à comprendre si auparavant ils étaient uniquement pinailleurs par principe. Et ce qui veut dire que ce qui est vertigineux en fait pour moi, c'est l'idée qu'ils se sont foutus de notre gueule depuis le début, quoi. Ils
oui,
étaient juste par juste.
Vous voulez avoir peut-être un sentiment de contrôle, c'est peut-être aussi ça.
Exactement, ouais, c'est un peu le sentiment que ça m'exprimait. Et là, je me retrouve un peu démuni en me disant, mais en fait, la qualité, elle ne tenait qu'à nous. En fait, il y a que nous qui nous embêtions pour vous fournir des traductions de qualité. Et vous, en fait, vous étiez juste là par posture à nous fliquer. Sous prétexte qu'on vous faisait payer trop cher les traductions et qu'on avait un mal de chien à faire augmenter les tarifs de traduction. Hein, quand même, le patron d'Evocati a bataillé ferme avec plusieurs clients au bout d'années et d'années de travail renouvelé avec eux pour réussir à faire augmenter d'un centime par mot les facturations, et il essayait de revenir à la charge. Et c'était une bataille difficile. Et là, on en est au point où les traductions vont, enfin les tarifications des traductions vont commencer à baisser pour la traduction pure. À cause de l'impact de l'IA, les clients nous font comprendre que si on veut rester compétitif, il va falloir maintenant revenir en arrière.
Peut-être pour parler de quelque chose d'un peu plus léger, enfin c'est peut-être pas forcément léger, mais en fait moi j'avais une question, plutôt tu as parlé du traducteur de chez Square Enix qui a bossé sur FF10, et moi ça m'a fait penser à ton... à ton article que tu avais écrit sur Final Fantasy World, justement, sur la localisation du japonais vers l'anglais, et sur les trop grandes libertés parfois un peu prises par les équipes de localisation anglaises. Et bah, je voulais que tu nous parles de ça, en fait. Qu'est-ce qui expliquait ça? Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce qui se passe avec la localisation anglaise? Parce que parfois, en fait, pour expliquer le gros problème, très souvent, c'est que si nous, en tant que joueurs français, on décide de jouer avec les doublages, les voix anglaises et les sous-titres français, on va avoir des personnages qui vont dire des choses totalement différentes de ce qui est écrit dans les sous-titres. C'est ça, hein. Dis-moi si je me trompe. Et qu'est-ce qui explique, du coup, voilà, ce problème chez la localisation anglaise des jeux de Square Enix? Peut-être que tu connais mieux le sujet et que tu peux nous l'expliquer un peu.
Absolument. Quand j'avais posté cet article-là, j'avais eu des retours de gens qui me disaient, par exemple, moi, c'est totalement ce que j'ai vécu dans Triangle Strategy, par exemple. Triangle Strategy, il a été traduit du japonais vers le français pour le texte, mais les doublages ont été traduits vers l'anglais, il n'y a pas de doublage français. Et c'est aussi une expérience qu'il y avait dans Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, par exemple, qui se trouve effectivement qu'il y a des gens qui, quand tu comprends bien l'anglais, tu te dis, mais en fait, attends, il n'a pas dit du tout. Parce qu'il a dit, c'est pas du tout ce qui était marqué dans le français. Qu'est-ce qui se passe? Qui se retrouvait d'ailleurs à blâmer souvent le français en disant « mais le français il fait n'importe quoi, il a mal traduit l'anglais, c'est débile », sans comprendre qu'en réalité le français était sans doute beaucoup plus proche du matériau d'origine. Alors effectivement, le problème, c'est que Square Enix a une tradition de localisation très poussée de le japonais vers l'anglais, dans lequel il y a une grande liberté qui est accordée à la localisation anglaise, qui tient au fait que à la fin des années 90, quand Square a professionnalisé son service de localisation après les cas d'FF7, FF7 était mal traduit en anglais aussi, hein. C'était pas juste le français, mais comme le français était traduit de l'anglais, bah voilà, mauvaise traduction, c'est mauvais de bout en bout. Donc Square a professionnalisé ses départements de localisation à la fin des années 90, et l'idée de la personne qui se trouvait à ce moment-là à la tête de cette localisation, c'est qu'il va falloir, si on veut vendre nos jeux sur le marché international et avoir une longueur d'avance sur les concurrences, il va falloir que nos textes anglais soient quand même de la meilleure qualité possible. On n'est pas juste en train de titiller les autres RPG japonais, on veut que nos jeux soient au summum de la qualité d'écriture. Et donc ils se sont appropriés le fait qu'en anglais, il n'y allait pas avoir de problème à réécrire massivement et lourdement pour aller pour hausser le niveau de la qualité d'écriture. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en place un système qui fait que leurs jeux sont traduits en du japonais vers l'anglais, mais ensuite la traduction est confiée à une autre personne qui s'appelle des editors en anglais. C'est difficile à traduire. Éditeur, c'est pas un bon mot en français, c'est un faux ami. On dirait plutôt des réécriveurs dans un sens, c'est un peu. Je pense que c'est le plus proche qu'on puisse trouver. C'est donc des gens qui vont se saisir de ce texte japonais, qui souvent est traduit assez fidèlement, le texte anglais traduit fidèlement du japonais, et vont le réécrire lourdement en ajoutant des fioritures, en le rendant plus fluide, en ajoutant des jeux de mots pour que ce soit un peu plus pimenté, voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'au fil des années, on s'est rendu compte que ce processus-là, quand même, donnait souvent lieu à des réécritures assez massives du texte, qui fait qu'il y avait un décalage qui se creusait beaucoup avec le texte japonais. Et ça émerge assez régulièrement. Il y a des petites crises qui fait qu'il y a une sorte de perception assez étrange de des localisations anglaises de Square Enix. Un coup, elles sont vraiment saluées par les joueurs, genre FF14, le texte qui est supervisé par Michael Christopher Koji Fox, notamment. Koji Fox est une personnalité, hein, il est très reconnu par les fans, ils adorent le fait que dans la localisation, ils ajoutent plein de blagues, des trucs des contextuels, culturels assez référencés. Et en parallèle, il y a des gens qui lèvent la main en disant « Ouais, mais attends, mais là, ils n'ont pas du tout traduit comme le japonais, et c'est nul en fait. » Il y a pas mal de petits cas dans FF14, dans l'article que tu cites, en cite un en particulier, mais ça spoil pas mal, donc je ne vais pas le citer ici. Et là, jusque récemment, en fait, il y a eu un problème dans FF7 Rebirth, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un problème qui a été réglé. Il y a toujours des problèmes de ce genre-là. Il y a une scène de flashback à Corel où Barrett et Dine sont en train de discuter du projet de réacteur Mako. Voilà, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Et en fait, en japonais, Barrett tente de convaincre Dine de se céder et de donner l'accord pour le réacteur en lui disant, moi, je veux pas que ma femme, elle continue à vivre dans la misère. Et en anglais, ils ont totalement réécrit en disant pense un peu à ta fille globalement. Enfin, c'est vraiment écrit Sauf qu'à ce moment-là, Barrett fait référence à Marlène, la fille de Dine. Sauf que le flashback se déroule 2 ans avant la naissance de Marlène.
Donc, oui. D'accord, ouais.
Énorme problème de chronologie. qui fait qu'en anglais, ils ont dû réécrire la réplique, la réenregistrer, la corriger, ce qui fait que maintenant, ils ont été affichés, en fait. Les gens ont vu qu'ils ont dû changer la réplique. Et Barrett, maintenant, dit juste simplement, pense aux enfants en général.
Oui, d'accord.
Ce qui ne règle pas le problème, qui est qu'ils ont quand même totalement réécrit la réplique japonaise originale de Barrett, qui a été traduite finalement en français. Il parle vraiment de sa femme. Ce qui, à mon avis, est une énorme erreur, parce que l'auteur qui a écrit cette réplique en japonais, il voulait que Barrett pense à sa femme en priorité, et pas qu'il essaie de convaincre Dine avec sa fille.
Le problème, c'est que l'auteur japonais, lui, il va pas forcément s'amuser à relire tout le script anglais pour voir si c'est cohérent.
Non, absolument, parce que la localisation anglaise de Square Enix a un statut supérieur qui est vraiment écrasant, ce qui fait que leurs décisions, souvent, par exemple, ils ont même parfois un impact sur le texte japonais d'origine, d'accord, qui va être modifié selon leur suggestion.
Tu es encore là pour la deuxième partie, justement, où on va pouvoir parler d'autres sujets, hein, pas forcément que de traduction. Mais en attendant, nous allons écouter Aoli Guardian, composé là encore par Masashi Amaotsu. C'est un hasard du choix de l'invité qui a choisi ce morceau-là, pour l'OST de Musashi Samurai Legend. Vous écoutez 1h et des pixels sur Radio Campus Paris et nous retrouverons Jérémy pour la deuxième partie de l'entretien. Est-ce que tu peux nous dire, Jérémy, pourquoi tu as choisi ce morceau en particulier ?
Eh bien, comme tu l'as dit au tout début, le début d'année n'est pas terrible. Là, quand même, en 2026, ça sent la merde quand même pour le moment. Et je m'étais dit que mettre un petit morceau de musique qui revigore comme ça, un truc aérien, éolien même pour reprendre le titre du morceau, ça nous changerait un peu les idées, ça nous mettrait un petit peu de bobo cœur avec cette musique absolument magnifique de Masashi Amaotsu qui est un de mes compositeurs préférés, je pense le manifester suffisamment régulièrement. Okay. Donc voilà, c'est un morceau que j'aime beaucoup, il est pas très connu, j'avais envie de le partager avec vous et imaginez que pendant 3 minutes, eh bien, le monde semble un peu plus léger. Bon, désolé, le retour au réel est un peu compliqué.
C'est intéressant que tu dises aérien parce que je trouve que c'est un bon mot pour décrire les musiques de Amaotsu en général. Ah bah je trouve oui. que c'est un qualificatif qui colle plutôt bien au ton de ses musiques en général.
Ouais.
Et est-ce que quelqu'un avait des questions à poser à Jérémy ou est-ce que... Dites-moi.
C'était pas tant une question, c'est que merci déjà pour cet échange qui était tout à fait passionnant. Quand tu as parlé du fait que par rapport à tout ce qui est IA, etc., les initiatives seraient forcément beaucoup plus parlantes si elles venaient de la part des joueurs et des joueuses, ça m'a fait penser en fait à une actualité qui n'est pas forcément totalement liée, mais au lancement de Silksong, pardon. Donc ça a été très mouvementé hein, à la fois par un accueil être surpris par rapport à la difficulté, mais en fait ce qui a grandement affecté la notation sur Steam du jeu, c'était pas spécialement des choses qui étaient liées à l'appréciation de la difficulté, les critiques négatives elles venaient du public chinois parce qu'en fait la traduction chinoise était perçue comme étant mauvaise. Alors personnellement sur le coup je ne comprenais pas bien, je suppose que la traduction dans tous les pays et la culture de la traduction, la localisation n'est pas la même partout, mais il me semble, de ce que j'avais compris, qu'on se retrouvait avec un jeu qui devenait justement trop verbal et qui devenait beaucoup trop long par rapport aux caractères qui étaient utilisés, et en fait ça a fait tellement de bruit que, alors Tim Sherry il parle pas beaucoup, hein, je pense qu'on l'a vu, on l'a bien vu au fil des années, mais ils ont assez rapidement communiqué, donc ils ont été assez discrets sur le reste des sujets, mais ils ont assez vite communiqué sur le fait qu'il y allait avoir une retraduction qui allait être faite par-dessus, donc pour corriger la traduction chinoise. À ce jour, je n'ai pas vu si c'était des corrections, s'il y avait vraiment une toute nouvelle traduction qui avait été refaite. Il me semblait que c'était plutôt la deuxième option. Donc, alors, je pense que la voix des millions et des millions de joueurs et de joueuses en Chine n'a pas le même potentiel que des gens qui seront numériquement... empiriquement moins, mais je trouvais que c'était assez impressionnant de voir ça. Je pense que bon, Tim Sherry est petit, ils font peut-être plus attention s'ils se prennent une rivière de retours négatifs que des grandes entreprises qui sont de toute façon les plus à même d'être tentées par le diable. Mais ça m'était rare, enfin, en tout cas j'avais jamais vu ça, j'avais jamais vu un feedback aussi vif et par rapport à une traduction. Je trouvais ça intéressant. Ce serait bien si ça arrivait aussi sur le sujet de l'IA. Mais
c'est sûr. De ce que j'avais compris, effectivement, de Silksong, ce qui s'est passé, c'est que le traducteur chinois, alors je ne sais pas si c'était une personne ou plusieurs, mais manifestement avait omis beaucoup d'éléments et réécrivait et ajoutait beaucoup de choses de son interprétation personnelle qui n'était pas du tout présente dans le script anglais. Voilà, effectivement, on est face à une faute professionnelle assez, assez importante. Il me semble même avoir vu que le type se vantait de travailler sur le jeu longtemps avant la sortie.
Oui, c'est ça. Les réseaux sociaux, ouais.
C'est ça, oui.
C'est un comportement.
C'est un égotrip.
Mais c'est tellement pas professionnel, quoi. C'est quand même assez, assez fou. J'ai du mal à concevoir qu'un jeu pareil puisse... je sais pas comment ça s'est passé, qu'ils aient pu avoir quelqu'un qui se trouve avoir un comportement si peu professionnel. Et il se trouve que pour le français aussi, il y a pas mal de problèmes. J'ai vu passer pas mal d'images du jeu dans lesquelles il y avait des erreurs grossières de français, vraiment des grosses fautes de français qui sont pas du tout professionnelles. Et bon, les gens, il n'y a pas beaucoup de moyens de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, sinon que la personne qui travaille sur qui a fait la traduction avait aussi fait la traduction du premier Hollow Knight. Et pas grand chose d'autre en fait, donc il se pourrait que ce soit une connaissance des développeurs qui a fait ça, et bon bah c'est pas une bonne idée quoi, parce que là clairement le résultat était truffé d'erreurs quoi. Donc
c'est d'ailleurs assez triste parce que là, franchement la traduction dans son fond je la trouve très jolie, celle du texte, mais effectivement les fautes elles sont assez grossières.
En fait elle aurait mérité une bonne relecture quoi. Quelqu'un
c'est ça en fait.
Derrière
et en fait en toute transparence je les avais contactés sans aucun espoir en disant bon il y a quelques petites fautes, enfin ça peut se remonter assez assez facilement. Bon évidemment il y a pas de réponse, mais ça ne m'a pas étonné, mais il y a eu quelques posts qui ont été créés sur Steam, notamment sur les forums de Steam, et en fait le souci c'est que comme tu le dis, donc c'est Chalulu je crois la personne qui s'en est occupée, c'est une personne qui n'existe pas sur les réseaux, sur internet, etc. C'est une personne qui n'a pas de réseaux sociaux ni quoi que ce soit, donc je sais pas si c'était une personne qui est fan, si c'est une personne effectivement qu'ils connaissent, et c'est tout à fait dommage parce que je trouve que la traduction elle est très jolie. J'ai joué dans les deux langues pour le coup, et je trouve qu'elle rendait plutôt honneur, et d'avoir des fautes qui finalement auraient disparu avec une simple relecture écriture orthographique, c'est un peu dommage. Donc c'est vrai que l'actualité au niveau de la traduction autour du jeu était pas simple. Je pense qu'il y a aussi des failles au niveau du suivi des prestataires. Encore une fois, c'est ni pour les excuser, ni pour les en féliciter, mais Team Cherry, ils sont pas beaucoup, et je pense qu'ils ont peut-être aussi un manque à certains égards de maturité, si je puis dire, par rapport à l'écosystème et au fonctionnement du jeu vidéo, des relations avec les prestataires, etc. Mais il n'empêche que c'est vrai que c'était assez surprenant à la sortie d'avoir un jeu qui était extrêmement poli sur tout, sauf sur ça.
Brièvement, juste parce qu'on n'en a peut-être pas parlé. Bon, je pense que je vais garder la cartouche musique de jeu vidéo, on va en parler dans la discussion tout à l'heure. Mais les gens te connaissent aussi, Jérémy, pour les livres que tu as écrits sur Final Fantasy, et notamment ton dernier livre, c'était celui sur la musique de Final Fantasy. Mais moi, je crois que le livre que j'ai le plus apprécié parmi ceux que tu as écrit, c'était la biographie de Uematsu. C'était vraiment... j'avais pas décroché du début à la fin. Vraiment, je crois que j'ai jamais aussi vite dévoré un livre. Et,
merci.
Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de cette expérience-là? Est-ce que t'en gardes des bons souvenirs? Comment tu l'as vécu, toi, l'écriture de ce livre? Parce que t'as dû, je crois, je sais plus si toi t'es allé au Japon pour l'écrire, je me rappelle plus. Je crois que oui.
Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui. C'est un projet qui est né assez rapidement au début, quand on a fondé Wayo avec Denis, Romain, Jonathan, au début des années 2010, pour faire le concert de Masashi Yamaozu à Paris. Après, on a commencé à avoir des idées, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus comme chose derrière, à part les concerts. Et l'idée d'une biographie de Uematsu, je ne sais plus qui c'est qu'il avait eu, mais elle est arrivée assez vite, en fait, et dès 2012, on avait déjà été faire des entretiens avec Uematsu au Japon. Alors, pour le coup, j'y étais pas, moi, en 2012. Mais il y avait déjà eu une première collecte de données très, très intéressante, très importante, y compris avec des collaborateurs de Uematsu, des gens qui ont même parfois juste pas forcément travaillé avec lui, mais qui le connaissent plus personnellement. Et c'est un projet qui a pris du temps, hein, parce qu'effectivement, 2012, et il est sorti en 2020, le livre, c'est sûr que ça a pris un peu de temps. C'était le premier livre que j'ai écrit, j'ai co-écrit avec Denis, hein, enfin, il a plus travaillé sur la collecte d'informations, les interviews, les traductions, surtout du japonais, ce qui était son rayon. Et moi, j'ai plus travaillé ensuite sur la mise en page, la mise en forme des textes et l'écriture en proprement parler. Mais sans lui, ça aurait été impossible à faire, je tiens à le préciser. Et c'était un travail difficile, parce que comme en tant que premier livre, on n'a pas vraiment de repères, surtout une biographie de compositeur de jeux vidéo. Enfin, c'était un peu unique en son genre à ce moment-là. Mais petit à petit, on a opté pour le côté un peu thématique. C'est un mi-chronologique, mi-thématique, ce qui nous a permis de mettre un gros bloc sur la carrière de Uematsu chez Square. Et aussi, un truc auquel on voulait vraiment, sur lequel on insistait beaucoup, c'était parler de sa carrière après Square, quoi, de ce qu'il a fait aussi après coup. Et évidemment, la partie qui vraiment était intéressante, la plus intéressante, je pense, c'était la partie sur sa jeunesse, sur ses influences, ses inspirations.
Et le fait qu'il adore les ovnis et le paranormal.
Oui, absolument, ça c'est un truc que les gens connaissent pas très bien à propos de Uematsu, c'est un absolu fondu de paranormal. Il a même dit dans une interview déjà que s'il devait faire la part de sa vie entre la musique et le paranormal, c'est peut-être le paranormal qui compte le plus. C'est dire à quel point il est à fond là-dessus, quoi.
Ouais.
Et en 2016, par contre, j'ai été au Japon, là, cette fois-ci, avec Denis et le reste de l'équipe de Wayo, et là, on a consacré deux après-midi entières. Uematsu nous a consacré deux après-midi entières de travail, d'interview avec lui, ce qui est un honneur absolument inouï, quand on est un fan depuis tant d'années. Et donc là, on a pu vraiment poser des tas et des tas et des tas de questions sur les vieux albums qu'il avait sortis au début de Square, notamment. C'est marrant parce qu'il me disait, oh là là, la vache, vous me forcez à me souvenir de trucs là que j'ai fait enfoui depuis longtemps, je m'en souviens plus, quoi. Ça nous a aussi permis de nous rendre compte qu'il faut pas non plus prendre toutes les anecdotes qu'on peut lire sur internet comme argent comptant. Il y a pas mal de choses qui ont pu être mal comprises, mal interprétées, qui peuvent être des faux souvenirs, des choses reconstituées après, ce qui est assez compliqué au moment d'écrire une biographie, parce qu'on se retrouve à se dire bon, ça il a dit ça
en même temps, si c'est pas lui qui peut vous le dire, qui d'autre, hein, donc faut lui ouais, faut le croire, mais
quand on se retrouve avec lui donnant des anecdotes sur un jeu, et en fait on se rend compte que plus tard il a dit la même chose mais sur un autre jeu, on se dit bon, qu'est-ce que sur lequel il a voulu dire ça, notamment l'anecdote particulière du fait que au tout début il n'y avait pas de boucle sur les musiques d'exploration. Quand le combat se terminait, la musique d'exploration reprenait à zéro. Et il nous avait dit, ouais, c'était quand même pas terrible, donc j'ai forcé le programmeur à me faire un petit système pour que ça reprenne après. Et il nous avait donné le nom d'un jeu pour ça, et je crois que c'était FF4, il me semble. Et moi, j'avais été vérifié, j'avais été regarder des walkthroughs d'FF4, et ça marchait pas en fait. C'était la musique reprenait après les combats, et je me suis rendu compte que c'était dans FF5 que c'était intégré pour la première fois.
Bon, je pense que l'erreur est pardonnée, parce que bon.
Ouais, l'erreur. Voilà, il suffit juste de dire que les souvenirs sont un peu flous, d'autres éléments entre, aussi.
Et puis, c'est les chiffres romains, ça confus. Tout le monde est confus avec les chiffres romains, de toute façon.
Ouais, enfin bon, ils les appelaient certainement avec leurs chiffres japonais.
Oui, c'est vrai.
Je sais que dans le livre La musique dans Final Fantasy, j'avais écrit en note de bas de page pour au moins un truc. J'avais dit, bon, là, je mets ça, mais attention, les souvenirs d'Omatsu sont un peu flous. Parfois, il dit pour ce jeu-là, mais en fait, ça te prend plutôt pour celui-là. Donc, okay. Voilà, il faut. Mais bon, bref, c'était une expérience exceptionnelle, pouvoir collecter plein d'informations. Et on s'est vraiment rendu compte, Denis et moi, après toute cette collecte, qu'on s'était dit, en fait, on détient tellement d'informations que les gens connaissent pas sur Uematsu. On a l'impression d'avoir découvert un homme que on ignorait totalement avant.
Il y a des choses que j'ai lues dans ce livre que je retrouve pas sur Internet, en fait. C'est ça qui est très bien.
Sur sa sensibilité de travail, sur le fait qu'il a été, il a beaucoup douté, en fait. C'est vraiment quelqu'un qui a été très, très, complexé par ses capacités musicales, parce que plein de gens le considèrent comme un génie, mais en réalité c'est pas un génie, hein. C'est vraiment quelqu'un qui c'est un autodidacte, qui a pas de formation académique, qui a eu beaucoup de mal à prendre en main sa musique, à trouver le style qu'il voulait développer, et à côté de ça il avait beaucoup de pression des autres compositeurs qui étaient des gens parfois beaucoup plus talentueux que lui, ne serait-ce que techniquement parlant. Donc il a dû lutter beaucoup contre ses complexes, et au final, c'est ce qui le rend beaucoup plus humain et appréciable pour moi. C'est vraiment quelqu'un d'adorable, dans le sens où il a tellement lutté pour faire part de sa passion communicative pour la musique, que c'est impossible de ne pas l'aimer. Quoi. Oui. Quand bien même la qualité de sa musique ne serait effectivement pas au niveau des plus grands compositeurs, des mieux formés, mais c'est pas grave, elle est tellement sincère et chaleureuse que voilà.
Ouais. Donc, est-ce qu'il fait de la bonne musique de jeux vidéo ? On découvrira ça plus tard en discutant. est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter ?
Ouais, j'ai une question. Alors, Jérémy, est-ce que tu peux nous parler en gros des différences s'il y en a et nous expliquer un peu ce que c'est que la localisation, pardon. La question de la localisation et en quoi elle peut se différencier de la traduction pure ?
Alors, la localisation, c'est le terme qu'on utilise dans le jeu vidéo pour parler effectivement de la traduction, et c'est un terme qui implique plus que simplement adapter une langue dans une autre. On a beaucoup intégré dans le jeu vidéo des notions de prise en compte des sensibilités régionales, travail d'adaptation pour que le texte soit plus naturel pour les publics visés. Et ça, c'est quelque chose qui est, par exemple, quand on pense par exemple à la traduction littéraire, qui serait absolument aberrant, quoi. On va pas, quand on traduit un roman dans une langue dans une autre, évidemment, ce sera jamais la traduction littérale, parce que ça, c'est un mythe, ça n'existe pas. Mais le traducteur ou la traductrice va quand même faire un effort pour coller aux effets de style qui ont été trouvés par l'auteur à l'origine. Si par exemple les phrases sont longues et alambiquées, on va faire en sorte de traduire de la même manière, on va s'attacher à respecter ce style parce qu'on sait que c'est une volonté de l'auteur ou de l'autrice. Or, dans la localisation de jeux vidéo, on est beaucoup plus motivé par le fait de s'adapter au public visé par l'éditeur notamment, et c'est souvent l'éditeur qui prend en charge la localisation, ce qui ajoute effectivement on a rarement un contact direct avec les auteurs ou autrices, hein. Dans le jeu vidéo, c'est assez rare. Régulièrement, on peut éventuellement poser des questions, mais on n'aura pas du tout une ligne directe avec eux. Donc la ligne directe, elle est plutôt avec l'éditeur qui va nous poser des conditions. On va avoir un cahier des charges qui va faire que il faudra mieux viser tel public plutôt qu'un autre. On va aussi nous inciter à adapter les blagues, par exemple, pour un jeu humoristique, on va faire en sorte que les jeux de mots, évidemment, qui sont par nature intraduisibles, vont être adaptés dans la langue cible. En France, on a cette culture qui fait que si ton jeu n'a pas une référence à la classe américaine, ou à Kaamelott, ou à d'autres trucs, comme des vieux films, ça va être un peu dommage, quoi. Ça, évidemment, c'est un truc qui est inimaginable en traduction littéraire, quoi. On va pas glisser une blague à Kaamelott en plein milieu du livre. Donc voilà, c'est ça que ça implique la localisation, c'est d'une certaine manière une forme de liberté plus grande par rapport au matériau, mais qui est cadrée dans un contexte marketing. Je suis désolé d'utiliser ce terme, parce que malheureusement c'est un petit peu ça dont il est question, qui va faire en sorte que le public cible va être pris en compte. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est comme ça qu'on le perçoit.
Bah encore une fois, merci Jérémy pour ton temps et pour avoir répondu à toutes nos questions.
Avec plaisir.
Merci Maxime pour l'entretien, merci Jérémy pour ta participation. Et tout de suite, nous lançons le magnéto de Calypso qui va nous parler de Coffee Talk.
C'est par les températures négatives des derniers jours que j'ai eu envie d'enfin me plonger dans le visual novel Coffee Talk, développé par le studio indonésien Toge Productions. S'il n'est pas le premier jeu de cette équipe de production, il marque le début d'une série, car un second opus sortira 3 ans après, et il est annoncé un troisième pour mars de cette année. On retrouve une marque de fabrique commune à tous les jeux de leur studio, une atmosphère unique, peinte en pixel art très travaillée et détaillée. Plusieurs de leurs jeux sont des tranches de vie sur un fond plutôt cosy, ou alors l'exact opposé, environ plutôt sur de l'action dark. Et vous, vous êtes plutôt boisson chaude ou bagarre méca ? Dans Coffee Talk, on incarne un ou une barista qui tient un café ouvert uniquement la nuit où toutes les boissons coûtent le même prix. Rapidement, on comprend que nous avons une habituée du nom de Freya, journaliste au rêve d'écrivaine de format plus long. Elle nous accompagne tous les soirs pour écrire auprès de la clientèle qui défile. Enfin, défiler, pas vraiment. Les clientes se font assez rares, on les compte en moyenne à 4 par soirée, et c'est à se demander comment cette entreprise tient encore dans cette économie. Mais ce huis clos en petit comité permet aux esprits de plus facilement se libérer et ainsi passer aux confidences autour d'une boisson réconfortante. Alors, succubes, orques, elfes, vampires et même aliens vont venir plusieurs soirs pour savourer davantage l'ambiance des discussions que celle de nos recettes. Le gameplay est très sommaire, s'alterne des phases de lecture des dialogues entre les différents protagonistes et des phases où nous concoctons des boissons selon les envies de nos clients et clientes. On peut même faire du latte art. Si effectivement l'atmosphère dans laquelle le jeu nous berce est très apaisante, je trouve les actions vraiment trop limitées à mon goût. Nos actions n'ont que trop peu de conséquences sur l'histoire ou nos relations avec les personnages. Je me suis davantage senti comme un client qui serait un peu à l'écart du groupe dans ce café, sirotant mon thé en écoutant les conversations. Alors pourquoi pas un jeu qui nous met plutôt dans une posture d'observation, mais au vu de certaines thématiques abordées, avoir une influence sur la manière dont se déroule l'histoire aurait pu apporter un peu de profondeur et nous immerger un peu plus dans cet univers alternatif du nôtre. Chaque début de service commencera par la lecture de la une du journal, nous sortant peu de notre monde actuel. On peut y lire qu'il y a des manifs de syndicats, un problème avec un certain virus, le jeu est sorti en 2020, des problèmes de drogue, de racisme, et les personnes y feront parfois référence, je pense notamment à un couple au schéma de Roméo et Juliette, qui ne peuvent pas réellement avancer dans leur relation car ils sont de deux races différentes, un elfe et une succube, et leurs parents n'approuvent pas. La journaliste qui nous accompagne nous dit qu'elle va rédiger son premier roman sur les différentes histoires qui sont racontées par les visiteuristes de ce café, en les romançant et en les anonymisant, bien sûr. Elle plaisante sur le fait de faire cela dans un univers où il n'existerait qu'une seule race, les humains, et notre personnage réagit en lui disant que nombreuses de ces histoires ne pourraient alors avoir lieu, car il n'y aurait donc pas de problème de race, ce à quoi elle nous répond que la moindre différence suffirait pour créer des problèmes tout de même. En bref, ce jeu ne fait pas dans la délicatesse quand il s'agit de traiter des différents enjeux de société, mais il les aborde, alors c'est déjà ça. Je regrette que cette ambiance propice à un ensemble de thérapie de groupe ne nous laisse aucun pouvoir d'action, comme si notre personnage ne partageait pas ces mêmes problématiques. Je n'ai pas terminé le jeu, alors je vais aller jusqu'au bout pour définir un peu plus mon avis. En tout cas, il est parfait pour se détendre un peu, notamment si l'on apprécie les sonorités un peu ASMR. J'irai aussi découvrir le second opus pour voir si un plus large panel d'action s'offre à nous ou pas. Merci de m'avoir écouté.
Nous remercions Calypso pour sa chronique cosy et je rends le micro à Maxime pour la discussion de fin d'émission qui va porter sur la question « Qu'est-ce qu'une bonne musique de jeu vidéo ?» Maxime, c'est à toi.
Merci Lazare. Alors, dans un article cinglant publié en décembre dernier dans Canard PC, Furolite alias Florian Agez atomise littéralement la musique de jeux vidéo. En résumé, si vous aimez ça, c'est que vous avez des goûts de chiottes. On se calme en fait, je plaisante, hein, évidemment, c'est pas du tout ce qui est dit. Et d'ailleurs, Furolite, dans son papier, même s'il emploie un ton provocateur dans son propos, il soulève une question qui est légitime et intéressante. Qu'est-ce que de la bonne musique de jeux vidéo ? En faisant écho directement au succès Tony Truant, tout comme sa musique de Clair Obscur Expédition 33, Florian explique à quel point il est prévisible de savoir quelle bande-son va s'attirer toutes les louanges des joueurs et même de la presse, tout simplement parce qu'elle a fait grand bruit dans tous les sens du terme. Évidemment, la posture défendue dans cet article est celle d'un connaisseur de la musique, lui-même il le dit, il a presque une position élitiste, mais c'est pourquoi son avis permet en fait de détonner avec l'opinion plus générale. Furolit clame en fait dans son article une ode au silence et à une musique plus maîtrisée, plutôt qu'à une omniprésence et parfois une exubérance de la musique. Donc sans plus rentrer dans les détails de cet article, je me permets donc moi aussi de vous poser cette question. Qu'est-ce qui pour vous est de la bonne musique de jeux vidéo ? Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire à ce sujet-là et un avis sur l'article de Florian ou sur la musique de jeux vidéo en général ? Est-ce que vous êtes du genre à couper la musique d'un jeu quand vous jouez, par exemple ?
Mon Dieu, surtout pas. Quel sacrilège !
Oui.
Il y avait eu un autre article de Canard PC il y a quelques... D'ailleurs,
oui,
Florian
en 2023,
parle dans son article en 2023 de Akbou, il me semble, qui avait dit que lui, de toute façon, la musique, il l'a coupée tout le temps, donc il en avait rien à faire de la musique de jeux vidéo. C'était une position un peu extrême, je trouve, quand même. Hein.
Oui, là, c'est...
Mais ça,
c'est ce qu'on appelle
sujet.
Un rage bait. C'était vraiment pour
Exactement.
Susciter la réaction.
Exactement. Et donc, comme je considère qu'il n'y a pas de... il y a rien à dire sur ce sujet-là, je reviens à celui de Florian, parce que bon, moi, je profite d'avoir la parole. Donc moi, je me suis bien retrouvé dans l'article de Florian. Je suis moins peut-être virulent que lui sur cette question-là, mais je trouve qu'il a bien raison de mettre le doigt là où ça fait mal. Je me retrouve notamment dans un truc en particulier, bon, c'est un peu secondaire, mais c'est très facile de se faire taxer de pédant ou d'élitiste quand on commence à exprimer un avis comme il le fait. Je me l'étais pris en pleine gueule quand j'avais commencé à dire du mal de la musique d'FF16, considérant quand même que je le faisais avec des arguments qui, à mon avis, étaient étayés, hein, pas juste pour dire du mal, sinon ça n'a aucun intérêt. Et
on sait que t'es un hater, Jérémy, tu n'aimes pas.
Oui, bon, allez, j'avoue, c'est de la merde. Donc, voilà, pour en revenir à ces choses-là, j'espère que ce ne sera jamais perçu comme quelque chose de pédant ou d'élitiste. C'est juste que Florian, c'est quelqu'un, je le connais bien, Florian, c'est un bon ami à moi, c'est quelqu'un qui a une très bonne culture musicale, une culture classique notamment. Il paraît qu'il est en partie encastré dans les murs de la Philharmonie de Paris. Bon, c'est une rumeur que je ne pourrais étayer, mais c'est vrai qu'on l'y voit souvent. Donc, il a des attentes élevé en fait. Il faut pas percevoir son article comme c'est un chieur d'élitiste qui nous dit qu'on a des goûts de merde. Non, au contraire, c'est quelqu'un qui veut nous faire comprendre que la musique de jeux vidéo pourrait aller beaucoup plus loin que des choses qu'il considère comme étant simplistes. Alors sur cette question-là, il a évidemment cité l'exemple de Clair-Obscur, et je le rejoins en partie. J'ai pas joué au jeu, je tiens à préciser, mais j'ai quand même écouté la bande originale, qui m'a demandé pas mal de temps, parce que c'est quand même un sacré gros bébé, et j'en ai tiré effectivement l'idée que c'était bien fait, que c'était vraiment propre en tant que tel, mais j'ai pas été très transporté par cette musique, que j'ai trouvé, comme Florian, très souvent larmoyante et fleur bleue pour pas grand chose. Mmh. Alors j'en conclue qu'évidemment ça colle avec le jeu, qui m'a l'air effectivement d'être aussi très expansif dans les sentiments, ce qui est une bonne chose, hein. Moi je suis pas en train de critiquer ça du tout, c'est le choix qu'a fait le jeu, et il a l'air d'avoir trouvé son public, ce qui est tant mieux, ce qui est une très bonne chose. D'ailleurs, on voit le succès ahurissant des concerts aussi.
Oui, il faut pas se mettre à dos la fanbase de Expédition 33.
Exactement. si vous aimez, c'est que vous avez certainement des raisons d'aimer. Voilà, il faut pas dire que je suis pas en train de dire que c'est nul. C'est juste que j'en conclue que je suis pas tout à fait le bon public, en fait. Je me suis souvent dit, tiens, peut-être que si j'avais 20 ans de moins, j'aurais trouvé ça vraiment incroyable aussi. Sauf que, comme Florian, j'ai développé un bagage musical qui maintenant me fait dire que c'est bien, mais ça pourrait, il pourrait y avoir tellement mieux. Alors, pas forcément Expédition 33 en l'occurrence. La musique, elle est indissociable du jeu, quoi. L'Orient Star, il a travaillé auprès des développeurs pendant quasiment toute la durée du projet. Donc, c'est difficile d'imaginer quelque chose qui puisse pas être plus proche du jeu en tant que tel. Mais Florian pose cette question, évidemment, très intéressante de est-ce qu'on a besoin d'une bande originale qui doit être aussi grandiloquente, dégoulinante de sentiments, et d'ailleurs dans l'article il donne l'exemple des Game Awards en disant que tous les ans ces dernières années ça a été gagné par un JRPG, d'ailleurs ça a été gagné globalement plutôt par un Final Fantasy, et la seule année où c'était God of War Ragnarok c'était parce qu'il n'y avait pas de JRPG en face. Donc là cette idée c'était que c'est notamment ce sur quoi Florian mettait le doigt, c'est que l'esthétique musicale du JRPG a créé cet sentiment que l'omniprésence d'une musique très expressive serait ce qui aurait le plus de succès en tant que musique de jeu vidéo. Et je dois avouer que même si moi j'ai été élevé avec la musique de JRPG et que c'est toujours quelque chose auquel je suis très sensible, j'ai envie d'en prendre mes distances avec cette idée selon laquelle il faudrait que la musique soit présente tout le temps, soit expressive tout le temps. Parce que c'est quelque chose qui s'appliquait sans problème à l'époque où les graphismes étaient de qualité assez limitée, d'autant plus sur les premières consoles où vraiment les visuels en 2D pouvaient être très primaires. Mais plus le temps passe, plus la musique, plus les graphismes des jeux vidéo deviennent expressifs, plus le sound design des jeux en dehors de la musique est réalisé avec un son immense, ben moins on a besoin de cette musique omniprésente, moins on a besoin de cette musique ultra expressive. C'est une opportunité en fait, c'est celle de dire ben en fait on va pas grossir le volume des bandes originales, on va pas faire des BO de 200, 300, 400 morceaux comme on en a certains maintenant dans le JRPG. Non, on va admettre que le silence peut être une option par exemple, et ça c'est quelque chose qui me paraît assez audacieux, mais qu'il va falloir, le silence musical en l'occurrence, c'est parce que le sound design peut prendre le relais et être tout aussi pertinent à mon avis. Donc voilà, j'ai une posture un peu ambivalente, pas aussi tranchée, mais je considère qu'effectivement le point que la musique est trop présente, trop grandiloquente, doit être soulevé effectivement.
Mais pour moi c'est pour rebondir sur ce qui a été dit précédemment par rapport à qu'est-ce qui fait une bonne musique de jeu vidéo, je pense que ce qui rend l'exercice de définir une bonne musique de jeu vidéo et ou de critiquer une musique de jeu vidéo, c'est que comme l'ensemble des éléments d'un jeu vidéo, c'est un aspect qui est particulièrement technique, c'est-à-dire que c'est pas tant la composition en tant que telle, ça compte. Mais ce qui fait cette spécificité, c'est comment c'est intégré dans le jeu, en effet, comment est-ce qu'elle apparaît, comment est-ce qu'elle boucle, comment est-ce qu'elle s'adapte aux actions du joueur ou de la joueuse. Et tu parlais de Breath of the Wild, Jérémy, mais il y a cette question-là, ce qui fait la force aussi de cette musique-là par rapport au jeu, c'est qu'elle n'est jamais prise en défaut par rapport aux actions du joueur ou de la joueuse, alors que le joueur et la joueuse, techniquement, peut faire absolument ce qu'il ou elle veut. Là où, dans un Minecraft, c'est un véritable bac à sable, mais finalement, la musique, en tout cas moi, dans les versions auxquelles j'ai joué, ça a peut-être changé depuis, s'adaptait assez peu aux actions, mais s'adaptait beaucoup plus aux environnements et ce que... comment dire, à ce que le jeu proposait aux joueurs en fonction de là, aux joueurs et joueuses en fonction de là où il ou elle se trouvait. Zelda, c'est vraiment de la musique adaptative dans tout ce que ça peut englober et vouloir dire. Et du coup, c'est ça qui fait aussi qu'une musique sortira du lot, marquera les esprits. Et ça, c'est compliqué. Tu le disais par rapport au quand il y a un test de jeu vidéo ou quoi que ce soit, c'est compliqué à évaluer en tant que qualité propre à la musique. Et le dernier truc sur lequel je voulais rebondir, c'était la question du le fait que la discussion est partie sur qui est en mesure de dire ce que c'est qu'une bonne musique de jeu vidéo. Je pense que c'est hyper important parce que en fait, certaines personnes, et comme dans tout milieu entre guillemets artistique, et je mets d'énormes guillemets, au terme artistique, comme toute critique artistique, certaines personnes se sont arrogé la capacité à évaluer la qualité de la musique, du jeu, et ainsi de suite. Mais ces personnes font aussi prescription, c'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est les personnes qui sont les plus visibles, les plus audibles, qui disent « ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça m'a marqué », et ainsi de suite, forcément ça forme et déforme l'avis des personnes qui s'y connaissent moins et qui considèrent qu'elles sont pas légitimes à se faire leur propre avis. Et à partir de là, à partir du moment où en effet tu donnes un prix en permanence aux musiques de JRPG, aux musiques de Final Fantasy et ainsi de suite, toute critique et toute appréciation de musique d'autres jeux vidéo se font à l'aune de ces entre guillemets grands monuments validés et tamponnés comme excellents et comme référence. Et du coup, tout se voit à travers ce prisme-là. Et la question, c'est plus tant est-ce que la musique est bonne, c'est est-ce que la musique est aussi bonne ou meilleur que la musique du dernier FF, que la musique d'Expédition 33, que la musique de... Donc en fait, ça fausse complètement le débat. Et c'est vrai que du coup, c'est quand même important de souligner que c'est intéressant d'écouter les avis de personnes qui s'y connaissent. Et déjà, faudrait-il que ces personnes s'y connaissent suffisamment pour être vraiment en capacité d'évaluer une qualité et sur quels critères. Mais c'est surtout très important de prendre du recul par rapport à ça et de se dire je suis pas d'accord avec cet avis, pourquoi, comment, et ainsi de suite. Et Ingrid, tu voulais parler, et je vais permettre de dire que ce sera peut-être la dernière intervention, sauf si tu renvoies la balle à quelqu'un. Mais...
je suis d'accord avec toi, et je pense que dans tout ça, ça reste impossible de dire ce que c'est qu'une bonne musique, parce que je pense qu'il y aura toujours un clivage entre la dissociation de la musique et sa qualification en tant qu'objet, comme je l'ai dit, et le fait que même s'il y a des musiques qui sont objectivement pauvres en technique ou en composition, etc., les humains restent humains, et d'un point de vue, on va dire, expérientiel, quand une joueuse joue à un jeu et est exposée à une situation qui va avoir une forme d'émotion, quelle soit-elle, hein, c'est aussi le rôle du sound design, quelque chose de tout bête, mais quand dans Metroid, on n'a pas de vie, qu'on a le bip-bip qui est très fort, ça crée une émotion, mais c'est pareil avec la musique, en fait, ça a un impact, c'est un feedback sonore, il a un impact sur nous. Ces musiques-là, qui sont extrêmement mises en scène souvent, c'est lors de cinématiques, lors de combats qui vont être mémorables, mais c'est mémorable pas juste parce qu'on joue, c'est mémorable parce qu'on voit, c'est mémorable parce qu'on entend, et c'est cette association ensemble qui va créer quelque chose, ça va cristalliser un mélange, vraiment une alchimie, et qui finalement, quand on va penser à la musique, en fait, on va pas juste y penser d'un point de vue de technique musicale. Évidemment, il y a des personnes qui sont formées à ça et qui seront en capacité de faire la dissociation, mais je peux pas en vouloir au commun des mortels de qualifier en fait le moment pendant lequel ces personnes ont été exposées à la musique, et c'est ces moments-là, dans le cinéma, ça aide beaucoup. Moi, je sais que dans le cinéma, la musique a un rôle extrêmement fort dans l'appréciation des scènes, le jeu vidéo aussi, même si je trouve que pour moi c'est un petit peu plus facile d'avoir une immersion dedans, mais je pense qu'on pourra jamais retirer à des gens que si une musique est objectivement mauvaise, si le moment où elle a été vécue était marquant, je pense que ce sera difficile de faire entendre que c'est mauvais.
C'est parfaitement pertinent ce que tu dis. Ça me fait justement, je crois que j'ai le mot de la fin, donc je vais pouvoir rebondir là-dessus. C'est très 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 bien dit, parce qu'en fait là, il se trouve que nous sommes face à un équilibre instable. Qu'est-ce qui fait une bonne musique de jeu vidéo? Il y a beaucoup trop de paramètres à prendre en compte pour avoir une fiche A plus B. Il faut faire ci, il faut faire ça. Est-ce que la musique est bien écrite? Est-ce qu'elle est bien enregistrée, bien produite? Est-ce qu'elle est bien intégrée? Est-ce qu'il est, il faut qu'elle fasse, elle soit expansive ou discrète? Parfois, la musique, elle peut nous affecter dans un jeu vidéo sans qu'on s'en rende compte. Elle est là, on l'entend pas vraiment, on la remarque pas vraiment, et pourtant, si elle n'était pas là, on se rendrait compte qu'il y a un problème, qu'il y a un truc qui cloche. Donc voilà, équilibre extrêmement instable, ce qui fait que la réponse est impossible à donner de manière définitive. En tout cas, on pourrait essayer, mais on n'a pas le temps.
C'est pas grave, je vais lancer mon propre podcast où on parlera de musique de jeux vidéo, t'inquiète.
Allez.
Pendant 3 heures.
Ah, voilà. Allons-y.
Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette discussion et à l'émission en général, puisque vous avez écouté Une heure et des pixels, une émission produite et réalisée par l'association Pixel Up et diffusée sur Radio Campus Paris. Nous remercions nos chroniqueurs et chroniqueuses, ainsi que Jérémy pour avoir accepté l'invitation, et un grand merci à Vincent pour la programmation musicale. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, de partager nos publications sur les réseaux sociaux et de parler de nous autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement sur notre Ko-fi, cela nous permettra de continuer à produire nos programmes et à vous proposer toujours plus de points de vue sur le jeu vidéo. Nous nous quittons sur Moonlight Serenade, Infinity Climax Mix, composé par Glenn Miller et réarrangé par Seiji Ota pour l'OST de Bayonetta 3.